Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Hey, you know what? Diffusé tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, Les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par Mydia Portis-Guérin avec Emmanuel Morse-Duncan à la technique et préparé par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Claire Delnat, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Adèle, que vous retrouverez à 10h50 pour le journal des Nouveaux Chemins, où elle recevra Michel Guérin pour vous parler d'un livre passionnant qui porte sur la question de l'autoportrait chez Rembrandt. Suite et fin déjà, hélas, d'une semaine sur Flaubert dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Une semaine qui fut l'occasion pour nous de parler de Madame Bovary, évidemment, de l'éducation sentimentale et de Salammbô, pas de Bouvard et Pécuchet pour une fois, on y reviendra, mais que nous allons terminer en évoquant deux des trois contes de Flaubert, Hérodias et la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, en compagnie de Loïc Vindels, qui est doctorant à Paris 8, et de Ildiko Lorinski, à qui l'on doit notamment L'Orient de Flaubert aux éditions de L'Harmattan. La maîtresse broche de la cuisine pouvait faire tourner un bœuf. La chapelle était somptueuse, comme l'oratoire d'un roi. Il y avait même, dans un endroit écarté, une étuve à la romaine, mais le bon seigneur s'en privait, estimant que c'est un usage des idolâtres. Toujours enveloppé d'une pelisse de renard, il se promenait dans sa maison, rendait la justice à ses vassaux, apaisait les querelles de ses voisins. Pendant l'hiver, il regardait les flocons de neige tomber ou se faisait lire des histoires. Dès les premiers beaux jours, il s'en allait sur sa mule, le long des petits chemins, au bord des blés qui verdoyaient, et causait avec les manants auxquels il donnait des conseils. Après beaucoup d'aventures, il avait pris pour femme une demoiselle de haut lignage. Elle était très blanche, un peu fière et sérieuse. Les cornes de son hennin frôlaient le linteau des portes, la queue de sa robe de drap traînait de trois pas derrière elle. Son domestique était réglé comme l'intérieur d'un monastère. Chaque matin, elle distribuait la besogne à ses servantes, surveillait les confitures et les onguents, filait à la quenouille ou brodait des nappes d'autel. À force de prier Dieu, il lui vint un fils. Bonjour Ildiko Lorinski.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Bonjour Loïc Vindels.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux. Donc, c'est dans une atmosphère extrêmement pacifique, calme, sereine, que Flaubert entame sa fantaisie médiévale. La légende de Saint-Julien l'Hospitalier, les apparences, en tout cas le début, est trompeur, car c'est une pièce extraordinairement sanglante. Mais avant cela, quand même, un petit mot sur cette expression magnifique de Flaubert. Tout Flaubert est là, peut-être, en tout cas, une bonne partie de lui. À force de prier Dieu, il lui vint un fils, Loïc Vindels.
Oui, l'intérêt peut-être de cette phrase, outre sa beauté, c'est la façon dont le lien de cause à conséquence est dévié de son but habituel. Si on considère l'histoire de Julien, non pas peut-être comme l'histoire d'un personnage, mais comme l'histoire de son désir, on voit que le désir premier de Julien est déjà inscrit dans le désir de ses parents de l'avoir. Et ce désir-là, qui devait être un désir charnel, est un désir dicté par la religion. Or, le destin de Julien, ou de son désir à nouveau, est justement tiraillé entre deux univers, entre le divin, d'une part, et le charnel, qui, ne pouvant s'exprimer sous les couleurs du charnel, s'exprimera d'une façon déviée, à savoir la chasse.
C'est l'histoire du désir de Julien, telle à peu près qu'on la trouve sur un vitrail d'église, dans mon pays, dit Flaubert. Flaubert, dit le narrateur de Saint-Julien l'Hospitalier. D'ailleurs, quand il dit « dans mon pays », il dit Kolorinsky, il ne faut pas entendre le pays de Flaubert, même si l'anecdote veut que Flaubert ait effectivement vu cette histoire sur les vitraux d'une cathédrale de son pays. Mais quand il dit « de mon pays », il faut plus y voir peut-être l'ambition d'un conte populaire, au fond, chez Flaubert.
On ne peut pas savoir, peut-être, mais en tout cas, cette dernière phrase du conte nous révèle quand même une source du récit. Donc le narrateur fait référence de façon très claire à un vitrail dans une cathédrale, qui peut être bien sûr celle de Rouen, mais on peut bien sûr penser à d'autres cathédrales où la vie de ce saint est racontée. Mais il y a toujours cette ambivalence chez Flaubert, on ne peut jamais décider si c'est vraiment lui qui parle quand il y a ce jeu. Dans la phrase, il reste une incertitude que le lecteur doit résoudre.
En revanche, sans savoir si Flaubert lui-même parle, on a des procédés typiquement flaubertiens dans ses contes qui sont vraiment la quintessence, hein, la distillation du style de Flaubert, notamment le fait qu'il mette des points d'accroche. Dans l'éducation sentimentale, on a vu hier que dans l'éducation sentimentale, le mot de béant revient à deux reprises. Une fois au début pour désigner une pipe qu'on casse, or casser sa pipe, c'est mourir, et celui dont la pipe est cassée, béante, au début de l'éducation sentimentale, meurt, béant, à la fin de l'éducation sentimentale. C'est les deux occurrences du mot de béant. Ici, chez Flaubert, il y a, au tout début de Saint-Julien, l'auteur écrit ceci, « De longues gouttières figurant des dragons la gueule en bas, crachaient l'eau des pluies vers la citerne et sur le bord des fenêtres à tous les étages, dans un pot d'argile peinte, un basilic ou un héliotrope s'épanouissait. » Ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent un basilic ou un héliotrope, dans la mesure où le basilic représente la cruauté et l'héliotrope, l'inspiration divine. On est à cet égard, là encore, dans l'alternative qui détermine le destin de Julien Loïc Vindels.
Oui, tout à fait. Sur la béance, d'ailleurs, on le trouve aussi, je crois, dans Hérodias. Lorsque Hérodias, donc la femme d'Hérode, se penche sur une béance, sur le puits dans lequel est enfermé Jean-Baptiste, et qu'elle le regarde à nouveau avec béance. C'est très souvent, Jacques Neff l'avait fait remarquer, je me souviens l'avoir entendu dire je ne sais plus où, si ce n'est à cette antenne, mais que ce terme avait très souvent rapport avec le regard, effectivement. C'est comme si le regard était ce qui permet au vide, à la béance, de se transmettre d'un point à l'autre, à l'intériorité de s'échapper et d'être fasciné, comme une proie peut être fascinée par son prédateur. Et pour revenir à Julien, sur cette ambivalence que vous remarquiez justement, la paix, par quoi vous avez commencé par souligner l'ambiance de la vie de Julien, effectivement, Flaubert nous installe dans un paradis, et on peut imaginer que, justement, l'histoire de Julien, la première partie, son enfance, puis ses chasses, c'est la chasse progressive d'un paradis, d'un Éden. C'est vraiment la mort dans l'Éden. Hein. Le et in Arcadia ego, hein, moi aussi je suis en Arcadie ou en Éden. Savoir, lorsqu'on regarde par exemple la série des crimes de Julien, parce qu'il faut peut-être rappeler...
On va y venir, oui. On va y avoir droit. Nos auditeurs y auront droit. Oui, c'est un carnage.
C'est un carnage, et c'est un carnage qui commence de façon assez surprenante, parce que donc Julien est un petit enfant modèle. Hein, on nous le dessine comme tel, on le dessine comme un saint. Par exemple, il ne pleure pas quand ses dents poussent, contrairement par exemple à Robert le Diable, qui était... Où on note dans les contes de l'époque, Robert le Diable, enfin Moyen-Âgeux repris au 19e, que Robert le Diable mordait le sein de ses nourrices. Au contraire, lui est un parfait petit angelot. Or, le parfait petit angelot, lorsqu'il se retrouve dans l'église, donc il est à la fois l'image parfaite du désir de son père qui veut le voir un jour un grand guerrier, et l'image, parce qu'il s'enthousiasme pour les chevaux, pour toutes ces choses qu'un petit noble doit connaître et apprécier, et en même temps il suit aussi le désir de sa mère, puisqu'il pioche humblement dans sa poche pour donner une obole aux pauvres avec humilité, etc. Or, le premier crime se situe dans l'église. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, on se situe dans l'église et c'est une petite souris, un petit rat d'église blanc, on pourrait dire, qui trotte et qui a sa liberté de se mouvoir, contrairement à Julien, qui est bien sage, mais qui est contraint, hein, qui est obligé d'être immobile. Et là, il va se mettre à se prendre de haine pour cette petite souris blanche, sur laquelle on peut se poser des questions. Quelle est cette souris ? Quelle est la manière dont il le tue, qui fait penser à la patte d'un chat. Il se met devant le petit trou de la souris, il lève sa baguette.
Un jour, pendant la messe, il aperçut, en relevant la tête, une petite souris blanche qui sortait d'un trou dans la muraille. Elle trottina sur la première marche de l'hôtel et après deux ou trois tours de droite à gauche, s'enfuit du même côté. Le dimanche suivant, l'idée qu'il pourrait la revoir le troubla. Elle revint. Et chaque dimanche, il l'attendait, en était importuné, fut pris de haine contre elle et résolut de s'en défaire. Ayant donc fermé la porte et semé sur les marches les miettes d'un gâteau, il se posta devant le trou, une baguette à la main. Au bout de très longtemps, un museau rose parut, puis la souris tout entière. Il frappa un coup léger et demeura stupéfait devant ce petit corps qui ne bougeait plus. Une goutte de sang tachait la dalle. Il essuya bien vite avec sa manche, jeta la souris dehors et n'en dit rien à personne. Toutes sortes d'oisillons picoraient les graines du jardin. Il imagina de mettre des pois dans un roseau creux. Quand il entendait gazouiller dans un arbre, il en approchait avec douceur, puis levait son tube, enflait ses joues, et les bestioles lui pleuvaient sur les épaules si abondamment qu'il ne pouvait s'empêcher de rire, heureux de sa malice. Un matin, comme il s'en retournait par la courtine, il vit sur la crête du rempart un gros pigeon qui se rengorgeait au soleil. Julien s'arrêta pour le regarder. Le mur en cet endroit ayant une brèche, un éclat de pierre se rencontra sous ses doigts. Il tourna son bras et la pierre abattit l'oiseau qui tomba d'un bloc dans le fossé. Il se précipita vers le fond, se déchirant aux broussailles, furetant partout, plus leste qu'un jeune chien. Le pigeon, les ailes cassées, palpitait, suspendu dans les branches d'un troène. La persistance de sa vie irrita l'enfant. Il se mit à l'étrangler, et les convulsions de l'oiseau faisaient battre son cœur, l'emplissaient d'une volupté sauvage et tumultueuse. Au dernier roidissement, il se sentit défaillir. C'est de plaisir, il dit Kolorinsky, que Julien défaille quand il accomplit ses premiers meurtres, que Saint Julien défaille en accomplissant ses premiers meurtres.
C'est pas encore Saint Julien.
Non, je sais, ça le sera.
Oui, en fait, ce qu'on a vu à tout à l'heure, c'est vraiment le début de toute une série qui va aboutir d'ailleurs à des scènes quasiment oniriques, avec des massacres sanglants. Et effectivement, en étranglant ce malheureux oiseau, ce qu'il ressent, c'est un vrai plaisir érotique, physique. Il est difficile de l'oublier.
On peut parler de plaisir érotique ici. Il y a beaucoup d'érotisme dans Saint-Julien, Loïc Vindels.
Ah, on peut.
On doit.
Je ne veux pas dire on doit, parce que c'est un peu présomptueux. Mais oui, effectivement, Flaubert nous l'indique très clairement. Et si on continue juste après. Le père dit qu'il serait temps d'apprendre la vénerie. Évidemment, la vénerie, on pense à Vénus. Et l'oiseau sur quoi Julien passe ses nerfs, c'est un pigeon, c'est-à-dire l'oiseau de Vénus par excellence. Et ce qui est intéressant,
vénerie, c'est que... Vénerie, vénérien, je viens de comprendre, excusez-moi, je suis plus lent que nos auditeurs. Allez-y.
Pardon.
Non, mais vous avez raison de le dire, bien sûr.
Et encore une fois, c'est ça qui est assez beau dans ce conte, c'est que si on gratte un petit peu les animaux, on a l'impression qu'ils sont donnés comme ça de façon naturelle, cette petite souris blanche, et puis ensuite des oiseaux. Les oiseaux grossissent et deviennent un pigeon, etc. Mais en fait, on voit bien que, pour ne prendre que ces trois-là, par exemple, une fois que Julien a commis son meurtre dans l'Éden, alors il sort de l'église et il va recommencer dans le jardin, puisque tout est construit de façon vraiment concentrique. C'est un jardin clos, hein, un paradis, c'est ce que veut dire le mot étymologiquement. Et on voit que, comme par hasard, le deuxième meurtre sont des petits oiseaux dans un arbre, comme des fruits, qui pleuvent sur lui, et il riait de sa malice. Et là, la malice de Flaubert est tout à fait remarquable.
Elle est serpentine, la malice.
Tout à fait. Dans la malice de l'enfant, bon, c'est quelque chose que Flaubert répète très souvent. Hein. C'est Salomé qui va zézayer en présentant la tête de, en demandant la tête de Jean-Baptiste.
C'est dans Hérodias.
Ouais. Ça, c'est dans Hérodias, pardon. Et on peut également souligner que, dès le début, le désir de tuer cette petite souris blanche, non seulement c'est le désir de mettre à mort donc un être libre, mais c'est aussi, si on reprend les termes des désirs des parents, hein, devenir évêque pour la mère, devenir un grand guerrier pour le père, c'est finalement satisfaire les deux, à savoir tuer... la tache rouge du sang de la petite souris sur le marbre blanc de l'autel, c'est immoler la mère, qui est elle-même est blanche, hein, elle l'a souligné dès le début, sur ce petit animal fait au sens que le donnait le Moyen-Âge.
Du sang, du sang, du sang. Dans Saint-Julien l'Hospitalier, il n'y a que du sang. Il y a aussi un peu de lèpre à la fin. Et beaucoup de sainteté. On va y venir, peut-être. En tout cas, on en parlera suffisamment, peut-être, pour éveiller la curiosité de nos auditeurs. Écoutez ça. L'espoir d'un pareil carnage pendant quelques minutes le suffoqua de plaisir. Il descendit de cheval, retroussa ses manches et se mit à tirer. Au sifflement de la première flèche, tous les cerfs à la fois tournèrent la tête. Il se fit des enfoncures dans leur masse, des voix plaintives s'élevaient et un grand mouvement agita le troupeau.
Le rebord du vallon était trop haut pour le franchir. Il bondissait dans l'enceinte, cherchant à s'échapper. Julien visait, tirait, et les flèches tombaient comme les rayons d'une pluie d'orage. Les cerfs, rendus furieux, se battirent, se cabraient, montaient les uns par-dessus les autres. Et leurs corps, avec leurs ramures emmêlées, faisaient un large monticule qui s'écroulait en se déplaçant. Enfin, ils moururent, couchés sur le sable, la bave aux naseaux, les entrailles sorties, et l'ondulation de leur ventre s'abaissant par degrés. Puis, tout fut immobile. La nuit allait venir, et derrière le bois, dans les intervalles des branches, le ciel était rouge comme une nappe de sang. Julien s'adossa contre un arbre. Il contemplait d'un œil béant l'énormité du massacre, ne comprenant pas comment il avait pu le faire. De l'autre côté du vallon, sur le bord de la forêt, il aperçut un cerf, une biche et son faon. Le cerf, qui était noir et monstrueux de taille, portait 16 andouillés avec une barbe blanche. La biche, blonde comme les feuilles mortes, broutait le gazon, et le faon tacheté, sans l'interrompre dans sa marche, lui tétait la mamelle. L'arbalète, encore une fois, ronfla. Le faon tout de suite fut tué. Alors, sa mère, en regardant le ciel, brama d'une voix profonde, déchirante, humaine. Julien, exaspéré, d'un coup en plein poitrail, l'étendit par terre. Le grand cerf l'avait vu, fit un bond. Julien lui envoya sa dernière flèche. Elle l'atteignit au front et y resta plantée. Le grand cerf n'eut pas l'air de la sentir. En enjambant par-dessus les morts, il avançait toujours, allait fondre sur lui, l'éventrer, et Julien reculait dans une épouvante indicible. Le prodigieux animal s'arrêta, et les yeux flamboyants, solennels comme un patriarche et comme un justicier, pendant qu'une cloche au loin tintait, il répéta trois fois « Maudit, maudit, maudit. Un jour, cœur féroce, tu assassineras ton père et ta mère. » Il plia les genoux, ferma doucement ses paupières et mourut.
Ildikó Lorinczky, deux questions à la faveur de ce texte qui est la charnière de Saint-Julien Hospitalier, le moment de la prédiction, la prophétie du cerf. La deuxième prophétie, puisque la mère enceinte reçoit deux prédictions, une prédiction sanglante et une prédiction de sainteté concernant l'enfant qu'elle n'a pas encore. Arrive la prophétie du cerf, le père de famille en l'occurrence, qui juste avant de mourir maudit trois fois Saint-Julien, en lui expliquant qu'il, cœur féroce, il assassinera son père et sa mère, en lui disant, plus qu'en lui expliquant d'ailleurs. À cet égard, deux questions. Faut-il, chez Flaubert, comme chez Jean Genet par exemple, pour devenir un saint, en passer par la case de la criminalité, pour être pénitent, avoir été criminel, pour obtenir rédemption, avoir commis un crime? N'est-ce pas là le propre des faux saints et des vrais criminels? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est quel rapport peut-on faire, est-il légitime de faire de Saint-Julien l'Hospitalier, de la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, une lecture oedipienne, finalement, d'un homme qui, malgré lui, en vient à tuer son père et sa mère? Qu'en dites-vous?
Je commencerai par votre deuxième question. Donc, cette référence à Oedipe a été...
Rappelons que ça arrive, hein. Il tue son père et sa mère, hein. C'est l'avantage
des prophéties. Il tue son père et sa mère, sans le vouloir, bien sûr. Donc, effectivement, le mythe d'Oedipe est très présent dans ce texte. Ça a été d'ailleurs analysé par plusieurs critiques flaubertiens. Mais je pense que ce qu'il faut surtout retenir de l'histoire d'Oedipe, ce n'est pas forcément l'aspect psychanalytique qui a été bien mis en valeur, mais souvent dans plusieurs analyses, mais le fait tout simplement que l'homme ne peut pas éviter son sort. Et très souvent, chez Flaubert, on trouve quand même cette idée. Julien ne peut pas éviter son sort. Les prédictions...
Et les détours qu'il emprunte pour lui échapper ne font qu'achever.
Que renforcer, en fait.
Les détours sont des raccourcis, oui.
Tout à fait. Et donc, finalement, les trois prédictions reviennent aux mêmes. Et ce n'est pas un hasard que c'est le cerf qui prédit, qui tuera son père et sa mère. C'est le patriarche, donc la figure du père par excellence, qui d'ailleurs ressemble beaucoup au père de Julien. On n'a pas remarqué tout à l'heure, mais au début du texte, dans ce passage magnifique que vous avez cité, il y a la description des vêtements des parents de Julien. Et dès la première apparition du père et de la mère de Julien, on peut apercevoir que ses parents, qui sont très humains, un grand seigneur, et la mère très pieuse porte des vêtements qui ressemblent, ou en tout cas qui peuvent référer aux animaux. Il y a la queue de la robe de sa mère, la fourrure de son père.
Et à cela s'ajoute peut-être, Loïc Wendels, le fait que la trajectoire des parents de Julien, qui n'est pas encore saint, du futur saint Julien, la trajectoire des parents, c'est celle de grands seigneurs qui, à la recherche de leur fils, se dépouillent progressivement de toute leur fortune et arrivent au château que le fils a conquis à force de bataille, en s'éloignant de son pays et en devenant un général fameux. Ils arrivent dans ce château en situation de complet dénuement, c'est-à-dire que les grands seigneurs que l'on voit, qui nous sont décrits au début du conte, sont des mendiants quand ils retrouvent la maison de leur fils, maison où ils les tuent sans savoir qu'il s'agit de Loïc Wendels.
Oui, tout à fait. Mais en fait, lorsqu'on parle d'Œdipe, évidemment, le problème, c'est la question de la chronologie. Mais alors, Flaubert ne parlerait pas d'Œdipe. Freud en parlera bientôt. Mais tout est dans le texte. Lorsque le parricide est annoncé plusieurs fois dans le texte, je ne citerai que la fois la plus fameuse, ce qui fait que Julien s'enfuit. C'est parce que après avoir tué son père, sa mère et lui-même enfant, hein, F-A-O-N, il tombe dans une crise mélancolique très grave, des médecins arrivent à son chevet, il est très faible, etc. Et puis il se remet peu à peu, car il est un noble, donc il faut combattre et savoir manier les armes. Et donc son père lui fait cadeau d'une épée, ce qui est un symbole phallique assez évident. On n'a pas attendu Freud pour cela.
Ni Lacan, oui.
Oui, et donc il monte, mais comme il est très faible, il veut attraper cette épée qui est en hauteur. Elle tombe et elle coupe verticalement le manteau du père. Elle coupe le manteau du père qui est un manteau de renard, qu'on reverra à la fin. C'est le renard qui attire dans la seconde chasse tragique qui attire Julien. Mais la mère, quant à elle, il n'y a pas question de section, c'est une question de perforation. Julien s'entraîne à la javeline et puis il devient très très fort.
Il excelle,
il est capable de l'envoyer dans un goulot de bouteille. Et tout d'un coup, il voit des ailes de cigogne, symbole de la maternité. De même, le faon était tué parce qu'il était en train d'allaiter, hein. C'est ce qui énerve Julien, c'est noté dans le texte.
De téter.
De téter, tout oui. À fait. Et donc il envoie sa javeline, et bien sûr ce n'est pas une cigogne, c'était le chapeau, le bonnet, hein, le hennin. Là c'est un bonnet, mais c'est toujours ça qui revient, le bonnet de sa mère. Et c'est si important qu'à la toute fin, lorsque Julien donc, sera après le parricide,
Donc il devient ermite, il part et il mendie au fond sa subsistance, il est pénitent.
Tout à fait. Et lorsqu'il pense à nouveau à son passé, voilà comment se passe sa réminiscence, sa nostalgie. Souvent il fermait les yeux, tâchant par la mémoire de revenir dans sa jeunesse. Et la cour d'un château apparaissait, avec des lévriers sur un perron, des valets dans la salle d'armes et, sous un berceau de pampres, un adolescent à cheveux blonds entre un vieillard couvert de fourrure et une dame à grand hennin, tout à coup, les deux cadavres étaient là. Donc, le parricide, on nous dit bien que c'est lié à nouveau aux fourrures et aux hennins, qui étaient les deux éléments, effectivement, que Lorinsky soulignait, qui étaient ceux qui permettaient de faire un pont avec les animaux.
Tous les animaux qu'il avait poursuivis se représentèrent, faisant autour de lui un cercle étroit. Les uns étaient assis sur leur croupe, les autres dressés de toute leur taille. Ils restaient au milieu, glacés de terreur, incapables du moindre mouvement. Par un effort suprême de sa volonté, il fit un pas. Ceux qui cherchaient sur les arbres ouvrirent leurs ailes. Ceux qui foulaient le sol déplacèrent leurs membres et tous l'accompagnaient. Les hyènes marchaient devant lui, le loup et le sanglier par derrière. Le taureau, à sa droite, balançait la tête. Et à sa gauche, le serpent ondulait dans les herbes, tandis que la panthère, bombant son dos, avançait à pas de velours et à grandes enjambées. Il allait le plus lentement possible pour ne pas les irriter, et il voyait sortir de la profondeur des buissons, des porcs-épics, des renards, des vipères, des chacals et des ours. Julien se mit à courir. Ils coururent. Le serpent sifflait. Les bêtes puantes bavaient. Le sanglier lui frottait les talons avec ses défenses. Le loup, l'intérieur de ses mains avec les poils de son museau. Les singes le pinçaient en grimaçant. La fouine se roulait sur ses pieds. Un ours, d'un revers de patte, lui enleva son chapeau. Et la panthère, dédaigneusement, laissa tomber une flèche qu'elle portait à sa gueule. Kolorinsky.
Donc après la fuite du château paternel de Julien, les parents de Julien partent pour retrouver leur fils. Et comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, ils arrivent, ils retrouvent leur fils, en tout cas la femme de leur fils, dans un château somptueux, dans un palais un peu à l'oriental. Mais ils arrivent là-bas comme des mendiants. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, ils préfigurent le sort de Julien qui sera donc, qui l'attend donc après la mort de ses parents. Et on sait que Julien, à l'opposé de ses parents...
Tout est affaire de préfiguration, d'ailleurs, dans ce conte. Oui, le vitrail lui, est la préfiguration de l'histoire.
Tout à fait, mais lui, il part tout seul. Ouais. Alors que dans la légende dorée, que Flaubert utilisait et connaissait bien, le couple part ensemble. Et ça fait une différence énorme. La solitude de Julien, à ce moment-là, est totale. Et ça, c'est ce qui fait une différence, d'une part, entre le départ des parents et, bien sûr, aussi entre la version qu'on connaît de la légende dorée ou d'autres versions hagiographiques et la version de Flaubert.
Loïc Vindels.
Oui, tout à fait. Et le vitrail. Flaubert s'écarte de la source qu'il brandit à la fin.
Changement de registre, changement de décor. Écoutez.
Il arriva du fond de la salle un bourdonnement de surprise et d'admiration. Une jeune fille venait d'entrer. Sous un voile bleuâtre lui cachant la poitrine et la tête, on distinguait les arcs de ses yeux, les chalcédoines de ses oreilles, la blancheur de sa peau. Un carré de soie, gorge pigeon, en couvrant les épaules, tenait aux reins par une ceinture d'orfèvrerie. Ses caleçons noirs étaient semés de mandragores, et d'une manière indolente, elle faisait claquer de petites pantoufles en duvet de colibri. Sur le haut de l'estrade, elle retira son voile. C'était Hérodias, comme autrefois dans sa jeunesse. Puis, elle se mit à danser. Ses pieds passaient l'un devant l'autre au rythme de la flûte et d'une paire de crotales. Ses bras arrondis appelaient quelqu'un qui s'enfuyait toujours. Elle le poursuivait, plus légère qu'un papillon, comme une psyché curieuse, comme une âme vagabonde, et semblait prête à s'envoler. Les sons funèbres de la gingrasse remplacèrent les crotales. L'accablement avait suivi l'espoir. Ses attitudes exprimaient des soupirs, et toute sa personne une telle langueur qu'on ne savait pas si elle pleurait un dieu ou se mourait dans sa caresse. Les paupières entrecloses, elle se tordait la taille, balançait son ventre avec des ondulations de houle, faisait trembler ses deux seins, et son visage demeurait immobile, et ses pieds n'arrêtaient pas.
Kolorinsky, j'ai promis à nos auditeurs un changement de décor, changement d'époque également. On quitte le Moyen-Âge, on arrive au début de notre ère, on voyage un peu dans le temps avec Flaubert, et on passe à Hérodias. Nous voilà donc au bord de la mer morte. Et voici non pas Hérodias, contrairement aux apparences et contrairement à ce que le texte semble dire, puisque Flaubert écrit « C'était Hérodias comme autrefois dans sa jeunesse ». Hérodias n'est plus toute jeune, ça n'est pas elle, c'est Salomé qui danse ici. Et quand il dit « C'était Hérodias », il faut bien entendre « On aurait cru voir ». Hérodias, il dit Kolorinsky.
Mais c'est tout à fait ça, en fait. Il s'agit d'une relation de double, d'alter ego qui s'établit entre la femme et la fille. Donc, Hérodias reprend bien sûr une histoire biblique bien connue, qui fait un peu le pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, à travers la figure de Jean-Baptiste, précurseur du Christ. Et dans ce texte fabuleux de Flaubert, il ne faut pas oublier d'ailleurs que c'est le dernier texte achevé et publié par Flaubert, synthétise en quelque sorte toute son œuvre. On y revoit cette rêverie orientale avec donc la figure de Salomé et sa danse, qui nous rappelle bien sûr les notes de voyage de Flaubert en Égypte et ses fameuses danseuses, les Alamées qu'il connaissait, pas forcément Kutchukranem dont on parle très souvent.
Kutchukranem, hein, c'est la fameuse prostituée dont on a beaucoup parlé cette semaine. C'est
Flaubert
presque
dit,
le personnage principal de cette semaine.
D'accord, mais c'est pas elle qui danse le mieux. C'est une certaine Aziza ou Azizet d'ailleurs dans les notes de voyage qui a inspiré Flaubert pour la danse de Salomé. Et donc d'après l'histoire biblique, là je reviens un peu à l'une des sources de Flaubert, hein, dont il s'éloigne bien sûr. Hérodias, qui est très très vexé pour des raisons personnelles et politiques, veut la mort de Jean-Baptiste et elle n'arrive pas à faire exécuter Jean-Baptiste. Et elle va servir de sa fille, qu'elle fait revenir de loin d'ailleurs, qui a grandi ailleurs et pas dans cette cour d'Hérode. Et par la fascination qu'elle exerce, cette jeune fille lascive sur Hérode, elle va obtenir donc Hérodias, la mère, son but.
Ce qui donne d'ailleurs à Flaubert l'occasion de faire le portrait parfait de ce qu'on appellera plus tard une femme fatale, Loïc Vindès.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est à cette époque, vers la fin du 19e, donc, que cette femme fatale, disons, comme expression, apparaît vraiment dans toute sa force, parce qu'on a beaucoup de préfigurations dès le début du romantisme. Théophile Gautier en a donné plusieurs. Mais oui, ce qui est assez intéressant aussi avec Hérodias, peut-être, alors je ne sais pas si on peut peut-être c'est effectivement le dernier texte qui a été publié par Flaubert. Ce qui est intéressant, c'est...
Il dit c'est peu naturaliste, mais ça se gueule, qualité supérieure.
Voilà.
C'est une lettre à Guy de Maupassant. Flaubert aime bien son texte.
Oui, et il a effectivement inscrit dedans sa propre figure, comme font assez souvent les écrivains, n'est-ce pas? Mais là, c'est assez beau, c'est lorsqu'il donne la parole à Jean-Baptiste, c'est-à-dire au prophète, qui a les deux fonctions qu'on a voulu voir, disons, dans l'œuvre de Flaubert, à savoir la gueulade contre son temps et le lyrisme qui envoûte. Tantôt, la voix de Jean-Baptiste se fait douce, mais la voix se fit douce, harmonieuse, chantante. Il annonçait un affranchissement des splendeurs au ciel, le nouveau-né un bras dans la caverne du dragon. Tout ça, bien sûr, est truffé d'allusions bibliques que Flaubert manipule avec une certaine liberté. Mais par ailleurs, lorsqu'il s'en prend à Hérode et Hérodias, il dit « Je crierai comme un ours ». Évidemment, on pense à Flaubert lui-même, qui se comparait très souvent à un ours, comme un âne sauvage, etc. Et ensuite vient un passage sur, alors il faut préciser juste un petit peu les choses, à la cour d'Hérodias arrive Vitellius, qui est le représentant des Romains, de Rome, et qui n'est pas censé entendre le syriaque qui se parle à la cour d'Hérode. On apprendra plus tard que oui, mais il a un traducteur. Vitellius s'obstinait à rester, alors que donc un flot d'injures s'abat sur ses hôtes. L'interprète, d'un ton impassible, redisait, dans la langue des Romains, toutes les injures que Iaocanan rugissait dans la sienne. Le tétrarque et Hérodias étaient forcés de les subir deux fois. Il haletait pendant qu'elle observait béante le fond du puits. Et on a là ce béante dont nous parlions tout à l'heure. Et alors, c'est assez extraordinaire de voir là l'interprète de Vitellius raconter impassiblement le rugissement du prophète, à savoir la voix rugissante, et qui est vraiment le problème que se pose Flaubert depuis son depuis qu'il a congédié, disons, le romantisme et les grandes envolées lyriques, alors qu'il reprend de façon un peu détournée dans Saint-Antoine. Dans Saint-Antoine, on a par exemple des figures de ce double lyrisme. Je pense à un cerf merveilleux qui tantôt enchante et tantôt effraie par son chant. Mais contrairement à la tentation de Saint-Antoine, ici, on a vraiment la volonté de montrer le travail de l'écrivain qui doit redire impassiblement les envolées, disons, de ces personnages.
Un être humain était couché par terre sous de longs cheveux, se confondant avec les poils de bête qui garnissaient son dos. Il se leva. Son front touchait à une grille horizontalement scellée. Et de temps à autre, il disparaissait dans les profondeurs de son antre. Le soleil faisait briller la pointe des tiares. Le pommeau des glaives chauffait à outrance les dalles. Et des colombes, s'envolant des frises, tournoyaient au-dessus de la cour. C'était l'heure où Manaëï, ordinairement, leur jetait du grain. Il se tenait accroupi devant le tétrarque, qui était debout près de Vitellius. Les Galiléens, les prêtres, les soldats formaient un cercle par derrière. Tous se taisaient dans l'angoisse de ce qui allait arriver. Ce fut d'abord un grand soupir, poussé d'une voix caverneuse. Hérodias l'entendit à l'autre bout du palais. Vaincue par une fascination, elle traversa la foule et elle écoutait, une main sur l'épaule de Manaëï, le corps incliné. La voix s'éleva. « Malheur à vous, pharisiens et sadducéens, race de vipères, outre gonflées, cymbales retentissantes, on avait reconnu Yahokanan. » Loïc Vindels et Ildi Kolorinski sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce vendredi à l'issue d'une semaine sur Flaubert. C'est étonnant, Ildi Kolorinski, à quel point tout Hérodias tourne autour de la perspective de la décollation de Jean-Baptiste, autrement appelé Yahokanan. L'enjeu unique, c'est d'apporter la tête de Jean-Baptiste sur un plateau.
Yahokanan, il y a déjà les deux noms. Donc l'appellation Yahokanan, le nom hébraïque, et Jean-Baptiste ou Jean, le nom chrétien. Tout le texte joue sur cette duplicité pour montrer que la décollation de Jean-Baptiste, c'est à la fois la fin et le début de quelque chose. Et bien sûr, dans la scène qu'on a vue à tout à l'heure, qu'on a entendue à tout à l'heure, on voit pratiquement tous les participants. Tous les personnages du récit, et on peut sentir aussi cette tension immense qui caractérise d'ailleurs le texte presque en entier. Et on voit aussi les cultures, les civilisations, les religions qui se heurtent en contemplant cet homme, d'ailleurs, dans sa caverne, et cette voix, en entendant cette voix qui vient de l'abîme. L'abîme, il y a évidemment une référence très chrétienne et très, très romantique aussi. Il parle de l'abîme. Il a la force du verbe. Loïc Vindels en a parlé tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a encore, donc, Yahokanan, toute la magie de la parole. Une parole ensorcelante au sens ancien du terme.
Ça, c'est quand même très amusant parce qu'on a l'impression que quand Flaubert est romantique, je mets le mot entre guillemets, il est chrétien. Il est romantique première façon, façon Chateaubriand au fond, Loïc Vindels.
Alors ça dépend ce qu'on entend par chrétien. C'est-à-dire que si on prend... Alors peut-être si on peut parler du recueil en son ensemble, je ne parlerai pas d'un cœur simple qui n'est pas au programme de ce matin.
Félicité.
Mais
ce
qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il est chrétien, oui, enfin, disons qu'il fait l'archéologie de l'imaginaire chrétien et de la sainteté. Qu'est-ce qu'être un saint sous le temps d'Hérode? Qu'est-ce qu'être un saint au Moyen-Âge dans les représentations populaires? Qu'est-ce qu'être un saint ou une sainte dans les représentations du 19e siècle? De même, pour ce qui est de l'imaginaire, on trouve des parallèles assez intéressants entre les trois contes qui tous se terminent sur une sorte de transcendance, mais une transcendance qui, dans le premier cas... aboutit à une sorte de Saint-Esprit kitsch, hein, une sorte de perroquet qui se confond.
Ça, c'est la fin d'un cœur simple, où Loulou et Félicité communient dans une espèce de folie céleste. Loulou, c'est le perroquet empaillé de Félicité, donc elle aime au-delà de tout.
Tout à fait. Au Moyen-Âge, c'est le lépreux qui se transforme en cet amant divin qui l'emporte aux cieux et qui nous amène d'ailleurs au-delà de la transcendance, c'est quand même la littérature. Hein, si on voit, il y a deux fins, Saint Julien. Puisqu'une fois que le conte est terminé, c'est justement cette fameuse phrase où le conteur apparaît et parle de son pays. Donc on a vraiment la s'il y a un seul dépassement de transcendance, c'est dans Saint-Julien, et c'est cette petite dernière phrase qui nous amène à autre chose.
Alors que c'est la seule transcendance qui mentionne explicitement notre Seigneur Jésus.
Tout à fait, qui est le Fils, hein, sur cette problématique du Père et du Fils. Et lorsqu'on voit dans ce qui est intéressant... Pour Hérode, pour revenir à la période d'Hérode, c'est qu'on a aussi des représentations mentales de ce que peuvent être la transcendance. Il y a un ange extrêmement effrayant. Manaï, le bourreau, n'ose pas la première fois tuer Jean-Baptiste parce qu'il a une apparition. Et donc... dire que Flaubert est chrétien, non, il nous dit ce que c'est que la chrétienté à ce moment. D'ailleurs, quand il écrit les trois contes, il dit « je suis ni chrétien ni stoïcien », parce qu'il l'écrit pour retrouver de la force.
Il dit Kolorinsky.
Il ne faut pas être chrétien pour maîtriser une culture qui est chrétienne. Et chez Flaubert, c'est quand même très, très important. Alors, par rapport à ce que...
Vous voulez dire qu'on ne peut pas être et savoir en même temps?
Ah, j'ai pas dit ça.
Ah, on peut pas être chrétien et savoir quelle est sa culture, c'est
non.
Ça ?
Non, on peut ne pas être chrétien et savoir.
On peut posséder une religion sans être possédé par la religion, voilà. Mais pour revenir à la clôture des récits, effectivement, il y a toujours une ambivalence et c'est particulièrement intéressant dans le cas d'Hérodias, qui se termine par une phrase, donc la tête a été coupée, a été présentée sur un plateau, il y a cette scène sanglante, terrible, qu'on connaît quand même transfiguré grâce à la peinture avec des tableaux magnifiques, cette tête présentée sur le plateau. Mais il y a donc la dernière phrase de Flaubert qui dit « Comme elle était très lourde, donc la tête, il la portait alternativement. »
Que signifie
et le mot
cet
alternativement,
adverbe voilà.
Alternativement, il n'y a que des hypothèses bien sûr, ça peut signifier d'une part qu'on peut lire ces textes de façon alternatives différentes, tantôt en s'adonnant à une lecture à la limite chrétienne, tantôt à une lecture satirique, ironique, qui est aussi soulignée dans les lettres de Flaubert, bien sûr. Mais alternativement, ça peut dire aussi que d'ailleurs, il y a trois personnages qui portent la tête et que chacun peut avoir un rapport différent à la tête, à l'histoire et à ce que symbolise, bien sûr, la tête de Yahochanan.
Les convives emplissaient la salle du festin. Elle avait trois nefs comme une basilique et que séparaient des colonnes en bois d'albumine avec des chapiteaux de bronze couverts de sculptures. Deux galeries à claire-voie s'appuyaient dessus et une troisième en filigrane d'or se bombait au fond vis-à-vis d'un cintre énorme qui s'ouvrait à l'autre bout. Des candélabres, brûlant sur les tables alignées dans toute la longueur du vaisseau, faisaient des buissons de feu entre les coupes de terre peintes et les plats de cuivre, les cubes de neige, les monceaux de raisins. Mais ces clartés rouges se perdaient progressivement à cause de la hauteur du plafond et des points lumineux brillaient comme des étoiles la nuit à travers des branches. Par l'ouverture de la grande baie, on apercevait des flambeaux sur les terrasses des maisons, car Antipas fêtait ses amis, son peuple et tous ceux qui s'étaient présentés. Des esclaves, alertes comme des chiens et les orteils dans des sandales de feutre, circulaient en portant des plateaux. Effectivement, on ne sait pas si on n'est pas ici dans l'ironie radicale. La description est parfaite, mais on peut être dans l'ironie. Le choix de Mídia Portis-Guérin d'illustrer ça par le banquet d'Indiana Jones illustre suffisamment, c'est notre parti pris. Qu'en dites-vous, Loïc Bindels ?
Alors, je dirais qu'entre la croyance et l'ironie, il peut y avoir aussi la fascination pour le fait religieux. Ça, je crois que c'est indéniable chez Flaubert, qu'il ait une fascination pour la diversité même des expressions du sentiment religieux chez l'homme, la tentation de Saint-Antoine, je pense, est un bon témoignage. Et les trois contes, qui, encore une fois, essayent de remonter le fil du temps, parce que, après tout, c'est vrai que ce recueil n'a pas été prévu comme tel. Il arrêtait Bouvard-Épicuée, il n'en pouvait plus, c'était une période très difficile, et puis finalement, il se relance avec Saint-Julien, et puis au bout d'un moment, il a l'idée d'un cœur simple, et puis au bout d'un moment, d'Hérodias. Mais donc l'ordre, on voit bien, c'est Saint-Julien, un cœur simple, Hérodias. Et il les réinstalle pour faire un cœur simple, Saint-Julien, et puis Hérodias. Donc il y a vraiment une remontée dans le temps.
Pardon, mais Madame Bovary, la tentation de Saint-Antoine et Salammbô.
Oui, alors il y a effectivement
des... Que vaut ce parallèle, Loïc Vindels ? Parce qu'on arrive quasiment au terme de cette émission, il fallait quand même que je vous pose la question. On peut considérer de façon quasi homothétique qu'un cœur simple, c'est Madame Bovary, ou plutôt sa réduction, sa distillation, pareil pour Saint-Julien et la tentation de Saint-Antoine, à ceci près que Saint-Julien s'est vraiment réussi, et Salammbô et Hérodias, qu'en dites-vous ?
Que vous êtes très sévère avec la tentation de Saint-Antoine.
Ça, c'est un autre débat, on n'a pas le temps d'entrer dedans maintenant.
Oui, on peut aussi dire que c'est le renversement, c'est-à-dire que Madame Bovary, par rapport à un cœur simple, c'est le versant noir. Un cœur simple, c'est ce que n'a pas fait Flaubert dans Madame Bovary, où il l'a juste laissé entrevoir avec Justin, par exemple.
Et Félicité. Il y a une Félicité dans Madame Bovary.
Tout à fait. Mais enfin, il y a une Catherine Nicaise, disons, qui est... Il y a une Félicité, mais qui ne ressemble pas beaucoup à la Félicité d'un cœur simple. Mais par contre, il y a un personnage, effectivement...
Catherine Nicaise ressemble beaucoup à Emma Bovary, hein, Félicité de Madame Bovary.
Exactement, alors que Catherine Nicaise, qui est cette servante...
J'ajoute que Catherine Nicaise, c'est un demi-siècle de servitude. Or, les bourgeoises de Pont-l'Évêque envièrent à Madame d'Aubin leur servante Félicité pendant 50 ans.
Parfaitement, mais on peut pas... L'impression que donne chaque texte, je crois, est assez différente. L'impression qu'on a à un cœur simple, c'est plutôt une bouffée d'air frais. C'est pas un hasard s'il a voulu le dédier à George Sand, et s'il l'écrivait en pensant à elle, il le lui a dit. Elle est morte avant, ben oui, ça c'est... Et alors que lorsqu'on voit par exemple Saint-Julien et Saint-Antoine, il y a aussi une forme de renversement qui est de l'ordre ne serait-ce que du chronologique. Saint-Antoine, c'est une journée en je ne sais combien de pages. Saint-Julien, c'est au contraire toute une vie en quelques lignes. Et puis pour Hérodias, pour les gens qui n'ont pas lu les trois contes, moi je crois que la première fois que j'ai ouvert les trois contes, autant les deux premiers passent tout seuls, autant Hérodias est un mur.
C'est très difficile.
C'est un mur. Alors que Salammbô, on nous prend un peu par la main. Bien sûr, il y a des termes compliqués, etc., mais on nous prend par la main. Et je crois qu'il fait l'inverse dans le sens où, dans Salammbô, c'est Carthage qui est complètement inconnu, comme le disait Jacques Neff avec vous lundi, et qu'il essaye d'approcher de son lecteur, alors que là, c'est l'inverse. C'est quelque chose qu'on est censé connaître et qu'il nous en rend son étrangeté incroyable.
Incroyable. Il dit Golowinski, le mot de la fin.
Il y a une densité incroyable dans Hérodias, mais vous simplifiez un tout petit peu, je pense, parce qu'il n'y a pas que ces relations entre Madame Bovary et un cœur simple et tout ce que vous avez énuméré. Il y a aussi des rapports très, très subtils entre Madame Bovary et Salammbô, par exemple, et on les retrouve aussi dans trois contes. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a une cohérence interne à l'œuvre de Flaubert, et c'est fabuleux de retrouver ces petits éléments cachés dans chacun des textes quand on relit l'œuvre et qu'on retrouve les éléments une trentaine d'années plus tard, par exemple.
Sage parole, merci de me démentir.
Attendez que ma joie revienne et que se meure le souvenir de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir avant de me dire je t'aime. Avant que je puisse vous le dire, attendons que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire. Laissez-moi, le chagrin m'emporte et je vogue sur mon délire. Laissez-moi, ouvrez cette porte, laissez-moi, je vais revenir.
Alors, attendre que la joie revienne, c'est pour Hérodias, mais pour le reste, on est de plein pied tout de suite dans le bonheur, quand bien même Flaubert décrit le pire. Un grand merci, Loïc Vindels, Ildi Kolorinski, c'était un bonheur de clore cette semaine avec vous, Jean Bafouille.
Qu'au matin je puisse sourire, que le vent ait séché ma peine, et la nuit calme mon délire. Il est, paraît-il, un rivage où l'on guérit du mal d'aimer. Les amours mortes y font naufrage, épave noire du passé. Attendez que ma joie revienne et que se meure le souvenir de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir. Avant de me dire je t'aime, avant que je puisse vous le dire, attendons que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire. Laissez-moi, le chagrin m'emporte et je vogue sur mon délire. Laissez-moi, ouvrez cette porte, laissez-moi, je vais revenir. Si tu veux que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire, vers ce pays où meurt la peine. Je t'en prie, laisse-moi partir. Il faut de mes amours anciennes que Paris.
Laissons partir Flaubert. Il est 10h50 sur France Culture. On retrouve tout de suite le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Une palette, quelques pinceaux, un miroir, des couleurs allant du blanc au brun très foncé, ou du lumineux à l'obscur, et une toile. Voilà ce qu'il fallut à Rembrandt pour peindre son autoportrait, ou plutôt ses autoportraits, puisque tout au long de sa carrière, le peintre en a réalisé plus d'une centaine. Alors pourquoi, parmi tous les sujets possibles, se peindre soi-même? Et si c'était l'inverse d'une démarche narcissique? Et si s'affirmait dans l'autoportrait la plus haute destitution d'un sujet? De la peinture au sujet, de Rembrandt à l'autoportrait, aujourd'hui nous allons nous effarer en peinture. Bonjour Michel Guérin.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et philosophe et vous êtes l'auteur de ce très beau livre sur Rembrandt, paru aux éditions de la Transparence, qui s'appelle « La peinture effarée, Rembrandt et l'autoportrait », et dans lequel vous proposez une réflexion philosophique et poétique sur les autoportraits de Rembrandt, sur la relation de Rembrandt à l'autoportrait. Alors arrêtons-nous un instant, on peut commencer par là, hein, sur le terme même d'autoportrait, puisque vous dites que chez Rembrandt, l'autoportrait est un anti-portrait. Donc comme si le fait de se peindre soi-même était en réalité une manière de refuser la propre peinture de soi. Michel Guérin.
Oui, il est clair que à la même époque, au XVIIe siècle, le portrait représente, parmi les genres les plus importants, l'apothéose du sujet. D'une certaine façon, le sujet est presque toujours en majesté, c'est-à-dire qu'il se peint, il est peint de manière avantageuse. Il est peint trait pour trait, mais ces traits, la plupart du temps, sont nettement embellis. Donc, d'une certaine façon, le sujet, c'est l'apothéose, d'une certaine façon, de la représentation. Et il me semble que Rembrandt n'est pas dans cette veine-là, dans cette ligne-là. Je pense que chez Rembrandt, il y a beaucoup plus une méditation sur la présence, déjà. C'est en ce sens qu'il est, pour nous, extrêmement moderne, même si le terme apparaît un petit peu comme banal aujourd'hui. Il n'est pas dans cette problématique de la représentation que, par exemple, quelqu'un comme Velázquez a porté, on peut dire, à son expression la plus haute, avec en même temps des recherches très précises et très, très savantes sur les codes de la représentation. Chez Rembrandt, donc, il y a une destitution du sujet, vous venez de le dire, parce que, justement, il n'y a pas de sujet sans objet. La représentation, c'est la circularité, c'est le tourniquet, pourrait-on dire, de l'objet et du sujet. Si vous destituez l'objet qu'est le moi, il n'y a plus de sujet de la représentation.
Donc, c'est-à-dire qu'à travers la représentation de ce que Rembrandt voit dans le miroir, il donne à voir une pure présence. Il défait la relation de sujet à objet pour montrer une présence. C'est ce que vous dites. Hein. Vous dites la question qui se pose, hein, qui se fraye un chemin à travers l'autoportrait, ce n'est pas qui suis-je, ni comment suis-je, ou bien à quoi est-ce que je ressemble, mais qu'est-ce être là,
être individu, là, être temps. C'est en réalité, toute la méditation fonctionne sur la dichotomie du sujet et de l'individu. On a tendance, très souvent, à employer les mots les uns pour les autres, le moi, le je, le sujet, l'individu. Or, c'est très différent. Ce sont des catégories qui ne peuvent pas se substituer les unes aux autres. Et je crois que, justement, chez Rembrandt, la démolition par le miroir. Il ne faut pas oublier que l'autoportrait, ça se passe à travers un instrument, à travers un médiateur terrible qui est le miroir. Le miroir, c'est bien sûr quelque chose d'abyssal. C'est quelque chose dans quoi la représentation s'effondre. Donc le sujet Rembrandt s'effondre pour ressurgir, si je puis dire, individu, à travers toute cette ambiguïté du miroir qui est à la fois, pour parler allemand, le Grund, le fond, et en même temps l'abgrund, c'est-à-dire l'abysse.
Et donc l'abysse est aussi ce qui provoque cet effarement, et j'emploie ce terme à dessein, puisque vous insistez, le livre s'appelle « La peinture effarée », et vous proposez une très belle analyse de ce qu'est l'effarement, qui se distingue de la surprise. Quand on est surpris, comme vous le dites très bien, à la limite, une vraie surprise n'effare pas, elle bouscule, elle ébranle, on en revient. Or l'effarement, c'est se faire surprendre, en fait, c'est se faire surprendre par ce à quoi on s'attendait déjà.
Exactement.
Et lorsqu'on s'effare, on se dit « oui, je savais, en fait, je savais que j'allais mourir, par exemple. » Et on sait qu'on meurt, mais enfin, la mort nous paraît normale, mais notre propre mort est un scandale.
C'est un étonnement qui se rapproche de la stupeur, mais une stupeur qui n'est pas la stupidité, une stupeur qui est un savoir, qui est un savoir de ce qu'on ne savait pas si bien savoir. En réalité, on est effaré de cette connaissance intime qu'on avait de l'individuel, c'est-à-dire de l'être là, c'est-à-dire de l'être pour la mort. Et sans vouloir évidemment anticiper et être anachronique, évidemment, Rembrandt n'est pas heideggerien, mais n'empêche qu'il y a dans la peinture de Rembrandt, et c'est ça qui a séduit, je crois, pas d'abord les romantiques, puis ensuite Baudelaire. Même
et
si...
même Rimbaud, effarement.
Et bien entendu, Rimbaud a écrit un poème qui s'appelle Les effarés. Donc la tonalité de l'effarement mérite, a une véritable dignité, à mon avis, métaphysique.
Oui, vous dites l'effarement, cet émoi mérite autant que l'angoisse. Donc là, effectivement, on revoit une référence à Heidegger d'être élevé à la dignité
à
métaphysique.
La dignité métaphysique, d'où la peinture effarée. Mais c'est pas le peintre qui est effaré, parce qu'il ne faut pas psychologiser, il ne faut pas reconstituer le sujet après l'avoir congédié. C'est la peinture qui est effarée, c'est-à-dire que l'individu, en réalité, le regard de l'individu, le regard que l'individu porte sur lui-même et le regard qu'il renvoie est confié à la peinture, est confié à la touche picturale.
Et vous parlez de regard immanent, comment est-ce qu'on peut...
C'est ça, le regard immanent, c'est ce que je viens d'expliquer. Ce n'est pas le regard d'un sujet, c'est pas un regard transcendant, c'est pas un regard qui prend de la distance par rapport à son objet. C'est un regard qui est logé à l'intérieur même de la peinture. C'est un regard dont on ne peut pas dire qu'il est regard sûr ou qu'il est regard de. Il est immanent, c'est-à-dire qu'il forme un tout. Et ce tout, il est effectivement confié à la peinture. Et je vois là, de la part d'un artiste comme Rembrandt, la plus haute vertu, c'est-à-dire un grand artiste, c'est le contraire d'un égo. L'autoportrait, c'est le contraire de l'égo-portrait. Quelqu'un comme Pierre Kaufmann a bien montré que l'art, effectivement, consiste pour l'artiste à se désassujettir au profit précisément de l'œuvre.
Merci beaucoup, Michel Guérin. Le titre de votre essai, c'est « La peinture effarée, Rembrandt à l'autoportrait ». C'est vraiment un très, très beau livre dont je recommande la lecture. On trouve ça aux éditions de La Transparence. J'en profite pour annoncer également que vous avez écrit, qu'on peut trouver aux éditions Encre Marine, qui s'appelle « Le fardeau du monde, de la consolation ». Là, c'est sur la consolation, si j'ai bien compris, chez Nietzsche, surtout. Donc ça, on retrouvera les informations sur ce livre en ligne. Et j'annonce également une exposition, puisqu'on parle de Rembrandt, au Louvre, « Le Christ selon Rembrandt », une exposition qui aura lieu jusqu'au 18 juillet. Merci d'être venu parler de votre livre aujourd'hui, Michel.
Vive l'autoportrait contre l'égo-portrait. On finit la semaine avec vous, Adèle.
Eh bien oui, connaissez-vous les éditions du Fennec? C'est une maison d'édition atypique dirigée par Laila Chaouni, qui s'est fixée pour objectif de donner la parole aux intellectuels français et maghrébins au sein de plusieurs collections, revues, essais, littérature, qui ouvrent toutes sortes d'horizons méconnus et vraiment intéressants. Alors à titre d'exemple, une des collections de cette maison d'édition s'appelle Débat philosophique et elle publie des textes issus de rencontres, notamment organisées par le Collège international de philosophie, par le philosophe Ali Ben Maclouf, que vous avez déjà pu entendre nous parler de Montaigne dans Les Nouveaux Chemins. Alors le dernier numéro de cette collection porte sur le thème de la reconnaissance, et il y va aussi bien de la reconnaissance psychique face aux troubles qui assaillent un individu que de la reconnaissance sociopolitique. Et il s'agit entre autres d'observer les résistances que rencontre la reconnaissance et d'analyser les constructions des identités dans le champ politique. On y trouve des contributions d'Ali Ben Maclouf donc, mais aussi de Marie Gaille, Emmanuel Renaud, Jean-Michel Salanskis, Ahmed Alami et Joseph Salazar. Et il faut noter également que l'ouvrage ainsi que tous les autres de cette collection est en français et en arabe selon le sens dans lequel on tient le livre. Alors pour vous procurer cet ouvrage ainsi que les autres de la collection, rendez-vous dans les librairies Vrin où vous trouverez tous ces ouvrages ainsi que les autres des trop peu connues éditions du Fennec.
Voilà, à lire de droite à gauche. Merci à tous, c'est la fin de cette semaine sur Flaubert. Effarons-nous en peinture, en littérature, en philosophie. L'essentiel est de regarder comme une énigme le monde qui va de soi. Cette émission, comme toutes les autres, vous la retrouverez sur Internet, à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous attendent le téléchargement, l'écoute en ligne de toutes les émissions précédentes, ainsi qu'une bibliographie aussi complète que possible. Et puis c'est la fin de la semaine, l'heure des merci à ceux sans qui l'émission n'existerait pas. Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Midia Portis-Guérin à la réalisation, et Claire Delnat, notre stagiaire qui n'a fait ici que passer, mais nous en sommes tous là. Merci Claire, merci pour tout et à bientôt. Changement de décor la semaine prochaine. Après Flaubert, et même si Rembrandt, comme dit votre invité Adèle, n'était pas heideggerien, eh bien c'est Heidegger dont il sera question. Heidegger dont nous lirons le chef-d'œuvre de 1927, Être et temps, toute la semaine. Le souci, l'angoisse et l'être pour la mort, c'est dès lundi prochain, 10h59 sur France Culture, dans un instant Culture Monde. Florian Delorme.